Lucie est une petite fille de 8 ans qui garde un troupeau de brebis dans la campagne portugaise. Un jour de 1915, un ange lui apparaît 3 fois. L'année suivante, en 1916, l'ange revient et apparaît à Lucie, à Jacinthe, sa cousine, et à François, le frère de celle-ci. Cette fois, il s'adresse à eux et les invite à prier. Il leur en visite en tout 3 fois. Plusieurs mois plus tard, le 13 mai 1917, toujours ensemble, les 3 cousins voient apparaître la Vierge. Tous les 13 de chaque mois, elle apparaît au pastoureau. Elle ne déroge jamais à cette règle qu'elle a elle-même fixée, à l'exception d'une fois. Le 13 août, les enfants sont empêchés par les autorités de se rendre sur le lieu du rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, la Vierge attend et apparaît quelques jours plus tard, le 19 août. En tout, la Vierge apparaît 7 fois aux enfants. La nouvelle se répand rapidement dans le village et dans les environs. Des curieux viennent pour assister aux apparitions, sans pour autant voir la Vierge. Le 13 juillet, la Vierge livre une vision de l'enfer que bien des années plus tard, Sœur Lucie retranscrit.
Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés comme les étincelles retombent dans les grands incendies sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs.
Une vision dantesque de l'enfer. Les enfants épouvantés, mais rassurés par la Vierge, écoutent la suite, encore plus terrible.
Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, en commencera une autre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix.
Nous ne sommes qu'en 1917, mais cette vision anticipe de plusieurs années tous les malheurs qui s'abattront sur le monde. La révolution d'octobre en Russie, l'expansion du communisme qui s'ensuit, la Seconde Guerre mondiale. Pendant plusieurs années, Sœur Lucie ne parle pas du troisième secret. Un halo de mystère gonfle au fil du temps. La voyante finit alors par écrire le contenu des paroles de la Vierge le 3 janvier 1944. La lettre est scellée dans une enveloppe et remise à l'évêque de Leiria et finalement versée aux archives secrètes du Saint-Office en 1957. Jean XXIII, en 1959, décide de ne rien révéler. Paul VI fait de même en 1965. Que contient donc ce troisième secret? Là encore, il s'apparente à une vision prophétique bien obscure.
Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu.
Cette vision déjà terrible s'obscurcit davantage et devient quasi apocalyptique.
Le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. parvenu au sommet de la montagne, prosterné, à genoux, au pied de la Grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches.
Comment ne pas penser avec le recul à l'attentat qui frappe Jean-Paul II place Saint-Pierre à Rome, un 13 mai, c'était en 1981. Le pape lui-même, persuadé d'être l'évêque vêtu de blanc du troisième secret, se fait alors porter la lettre qui le contenait. Indifférent jusqu'alors à ce mystère, Jean-Paul II comprend tout le sens de la vision, d'où ses voyages au sanctuaire, d'où le don qu'il y fait du projectile qui l'a atteint. En l'an 2000, 19 ans, jour pour jour après l'attentat, le cardinal Sodano, à l'issue de la messe de béatification des deux petits bergers François et Jacinthe, exprime le but de la visite du pape au sanctuaire.
Il veut aussi donner à ce pèlerinage le sens d'un geste renouvelé de gratitude envers la Madone pour la protection qu'elle lui a accordée durant ses années de pontificat. C'est une protection qui semble concerner aussi ce qu'on appelle la troisième partie du secret de Fatima. Après l'attentat du 13 mai 1981, il a paru clairement à sa sainteté qu'il y avait eu une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile, permettant au pape agonisant de s'arrêter au seuil de la mort.
Ce secret est finalement rendu public par Jean-Paul II lors du jubilé de l'an 2000 à Fatima. Entre-temps, le pape, en 1984, consacre au cœur immaculé de Marie les hommes et les peuples. Jean-Paul II exauce ainsi le vœu de la Vierge prononcé en 1917 aux trois petits bergers. Depuis, le communisme, ennemi décrit avec tant de force dans les visions, est tombé. Après ces apparitions, Lucie prend le voile quelques années plus tard et décède le 13 février 2005, dans sa 98e année. Ses cousins, conformément à ce que la Vierge leur avait dit le 13 mai 1917, les emportent au ciel très tôt. François meurt le 4 avril 1919, après des mois de souffrance provoquée par la grippe espagnole. Il a 11 ans. Sa petite sœur, Jacinthe, décède seule, dans un hôpital de Lisbonne quelques mois plus tard, le 20 février 1920, après bien des souffrances elle aussi, à l'âge de 9 ans. Un miracle leur ayant été attribué à tous les deux, ils sont béatifiés en l'an 2000. Leur vie, toute tournée après les apparitions vers le Seigneur, leur a ouvert les portes du ciel, comme ils l'avaient désiré, pour consoler Jésus de tous les péchés commis par les hommes.